وبعد نواصل قراءة هذه المنظومة. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر منازل سير السائرين في تحقيق المحبة والخوف والرجاء، قال في وصفهم: وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. وفي هذا إشارة إلى كرم الله تبارك وتعالى وجوده وتوفيقه لعبده، وأن الفضل فضله تبارك وتعالى. أراد الناظم أن يبين أن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن الصادق مع الله يصدقه الله تبارك وتعالى. الصادق مع الله في محبة ربه ومولاه. الله عز وجل يملأ قلبه بمحبته جل وعلا، بوداده ومحبة الرحمن. ومحبة الله تبارك وتعالى من أعلى المقامات التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، وهي من أخص صفات أوليائه، أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والعبودية لله عز وجل لا تتحقق إلا بكمال الحب، لأن أهل العلم لما عرفوها، أي عرفوا العبودية، قالوا هي الخضوع لله تبارك وتعالى، الخضوع لله تبارك وتعالى مع كمال الحب والانقياد. تفعل هذا رغبة فيما عنده ومحبة له. ولهذا الفرق بين عبادة المحبين وغيرهم أن العابد لله تبارك وتعالى بالمحبة يجد راحته ويجد لذته في عبادته لربه. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا أمره أن يقيم الصلاة: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. راحة نبينا في وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. متزوج مثلا، الله يهديه. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أحب الأشياء إلي التي تقر بها عينه هي صلاته، لأن هذه الصلاة هي المناجاة لله عز وجل. والمحب إذا وقف يناجي ربه تبارك وتعالى كانت هذه المناجاة أحب الأشياء إليه. ولهذا الفرق بين المؤمن الصادق أنه يقوم إليها نشطاً فرحاً، بخلاف المنافق الذين قال الله عز وجل فيهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يقومون كسالى كارهين لهذه الصلاة. ولهذا يا عبد الله إذا رأيت من نفسك هذا الفرح وهذا الابتهاج، وهذا كأنه تتم لجواب على سؤال الأخ، رأيت هذا الفرح والابتهاج في قيامك بهذه العبادة، فاعلم أن الله تبارك وتعالى قد ملأ قلبك بحبه. ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن.
Le Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala dit, en décrivant ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont aussi eux à qui la divinité a rempli le cœur de son affection et de l'amour du miséricordieux. Après avoir cité les trois degrés de celui qui chemine vers Allah, qui sont l'amour, la crainte et l'espoir, le Cheikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fait maintenant allusion au fait que ceci n'est que le fruit de l'assistance qu'Allah donne à son serviteur, de l'aide qu'il lui apporte. Et ceci n'est que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'aide, la réussite ou l'assistance ne sont que dans la main d'Allah. Et la rétribution qu'Allah donne à son serviteur est liée à ce que ce dernier fait comme action. La rétribution qu'il lui donne est proportionnelle à ce qu'il fait comme acte. S'il fait du bien, il aura ce qu'il mérite, et vice-versa. Ainsi, celui qui est véridique avec Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah le sera avec lui et remplira son cœur de son amour. Ce serviteur sentira dans son cœur qu'il aura un amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'amour d'Allah, azza wa jal, fait partie des stations les plus élevées, des actes les plus aimés avec lesquels l'un d'entre nous se rapproche d'Allah, azza wa jal. L'amour d'Allah est une caractéristique ou une spécificité des alliés d'Allah qui ont été cité dans le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui adorent Allah. Et l'adoration ou encore la dévotion ne se réalise qu'avec l'amour complet. Plus l'amour augmente, plus la dévotion qui est vouée à Allah, azza wa jal, le devient aussi. Pour cela, certains savants ont défini l'adoration dans la façon de la faire, dans ce que l'on doit ressentir dans le cœur lorsque l'on accomplit l'adoration. Ils ont dit qu'il s'agit d'être humble devant Allah, de lui montrer que l'on ressent notre faiblesse et notre petitesse. Tout ceci en éprouvant un grand amour et en se soumettant à ses ordres. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le véridique, le croyant véridique, quand il œuvre dans la religion, il le fait par amour. Il est poussé par un désir profond qui habite son cœur pour adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est ici que l'on voit la différence entre l'adorateur véridique et l'hypocrite. L'adorateur qui est véridique a le cœur rempli d'amour pour Allah. C'est pour cela qu'il trouve la quiétude, le repos dans l'obéissance à Allah, comme la prière ou autre. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal al-Mu'adhin, le muezzin, celui qui élevait sa voix pour appeler à la prière, « Repose-nous par la prière, ô Bilal !» Le prophète alayhi salatu wa sallam trouvait son repos, sa quiétude, sa joie, son bonheur dans l'obéissance et l'adoration d'Allah. D'ailleurs, il a dit au sujet de la prière dans un autre récit, « On m'a fait aimer les femmes et le parfum, mais on a mis la réjouissance de mon œil dans la prière. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la prière. Elle était pour lui une réjouissance, car il s'y trouve une discussion entre le serviteur et son créateur, une discussion secrète. Subhanahu wa ta'ala. Le véridique est vif et motivé. Il se sent en forme et a envie d'adorer Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il n'est pas paresseux. Contrairement à l'hypocrite, les hypocrites ont été décrits par Allah tabaraka wa ta'ala et qualifiés comme paresseux. Dans le sens rapproché du verset, Allah nous explique que les hypocrites, lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent pleins de paresse et n'évoquent Allah que très peu. Si tu veux savoir est-ce que tu es véridique avec Allah, ou plutôt est-ce que tu as atteint ce degré tant recherché dans la sincérité et la véracité, regarde en toi-même. Qu'est-ce que tu éprouves lorsque tu accomplis les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Si tu sens en toi que tu ressens une joie à obéir à Allah, à prier, à adorer Allah, azza wa jal, sache alors que ceci est un indice montrant que tu es véridique. Mais si tu vois le contraire, sache qu'il y a un problème. قال رحمه الله وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه في ذكره لأوصاف هؤلاء لأوصاف السائلين إلى الله تبارك وتعالى المتنقلين بين هذه المنازل منازل الطاعات السائلين إلى الله جل وعلا بقلوبهم هذه القلوب التي أخلصوا فيها النية لله هذه القلوب التي امتلأت من محبة الله هذه القلوب التي سيرها إلى الله بين خوفه ورجائه هذه القلوب كذلك العامرة بذكر الله العامرة بذكر الله قال وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان وكأن الشيخ عليه رحمة الله يأخذ من حديث رسول الله الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حيث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وها هنا وقفة ينبغي أن نقفها لنتعلم الذكر المسنون الذكر المسنون
ليس أن تردد الكلمات الطيبات أو التي سماها رسول الله بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بهذه الألفاظ وبغيرها، كان نبينا يذكر ربه. الوقفة الأولى أن ذكر الله لا يكون إلا بالألفاظ الشرعية، حتى نخرج الألفاظ الغير الشرعية عن الذكر الشرعي الذي يذكر الله جل وعلا بغير هذه الأذكار. يجي ذاكر يقول الله الله الله، لم يرد لا في كتاب ولا سنة ذكر لله بلفظ الجلالة مفرد أبدا. هؤلاء قالوا أعظم ما في الذكر هذه الكلمة، قالوا إذن نقتصر عليها. زاد قائل من قائليهم قال أعظم ما في هذه الكلمة آخرها حرف الهاء، زادوا مرتبة أخرى في الذكر أعلى من الأولى، يذكرون الله بهذا الحرف هو هو هو، كأنها كلاب تعوي. ذكر الله جل وعلا لا يكون إلا بما علمنا ربنا في كتابه من تلك الأذكار المباركات. قال سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ذكر من الأذكار. نبينا صلى الله عليه وسلم قال يعلمنا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ذكر من الأذكار المسنونة، وقس على ذلك من هذه الأذكار. ما عداها لا يشرع أن يكون ذكرا لله، ولا يجوز أن يتعبد به ربنا تبارك وتعالى، لأن سبق أن قلنا في أول ما قاله الناظم أن السعادة في تجنب سبل الردى وتيمم منازل الرضوان، ورضا الله جل وعلا لا يتحقق إلا بإخلاص النية واتباع النبي عليه الصلاة والسلام.
Le Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala dit: en outre, ce sont eux qui ont multiplié son évocation en cachette, en public et en tout instant. Il se rapproche du grand détenteur de la royauté par la réalisation de son obéissance et le délaissement de sa désobéissance. Le Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala décrit ses cœurs qui sont habités par l'amour d'Allah, sa crainte et son espoir, comme étant également des cœurs qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si le Cheikh, l'imam Sa'di rahimahullah, s'est appuyé sur le récit prophétique relaté par l'imam Muslim rahimahullah, d'après Aisha radiyallahu anha, qui nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah à chaque moment, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ces gens évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient ici de marquer un arrêt important et d'attirer l'attention sur quelque chose d'important, qui est la manière d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on évoque Allah, on doit le faire conformément à ce qu'il a lui-même légiféré et prescrit subhanahu wa ta'ala dans son livre et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit prononcer les termes qui sont cités dans les textes. Contrairement à des personnes qui innovent en matière d'évocation, ils prennent ces quatre paroles connues, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, puis ils se mettent à les déformer peu à peu jusqu'à arriver à ne dire que Allah, Allah, Allah. Et certains d'entre eux vont plus loin encore et disent qu'il y a encore meilleur que cela, c'est le fait de ne prononcer que la dernière lettre du nom d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la lettre Ha. Il se retrouve à évoquer de cette façon en disant Hu, 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 en pensant par là se rapprocher d'Allah et en pensant par là évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Rien de cela n'est affirmé ni relaté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ressemble d'ailleurs à des chiens qui aboient et qui élèvent leur voix. Et ceci n'a rien à voir avec la guidée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car le rappel d'Allah ne se fait que conformément à ce que lui-même nous a enseigné. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette formule d'évocation, de rappel: Subhanaka inni kuntu min al-zalimin, exempt sois-tu de tout défaut, je faisais partie des injustes, et d'autres paroles encore. Comme aussi Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim, et toutes les paroles rapportées par les textes. Autre que celles-ci, nous ne devons pas les prononcer en adorant Allah Azza wa Jal avec, car comme nous l'avons vu au début de ce poème que nous étudions et lisons, les gens dont le Cheikh parle dans ce poème sont ceux qui ont évité les chemins de la perdition. Et parmi les chemins de la perdition, il y a justement, dans le domaine de l'évocation d'Allah, le fait de l'évoquer subhanahu wa ta'ala, contrairement à la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ذكر الله تبارك وتعالى كما أسلفت ينبغي أن نقف عنده هذه الوقفة الأولى متعلقة بلفظه وأن ألفاظه توقيفية، والتوقيفي بمعنى أنه لا يشرع لنا أن نتعبد الله بالذكر إلا باللفظ الذي دليله من كتاب أو سنة، هذا معنى توقيف، هذا معنى توقيف. وأفضل الذكر كما قال ابن القيم عليه رحمة الله هو الذي يتوافق فيه القلب مع اللسان، تكون ذاكرا لله بلسانه مستحضرا لتلك المعاني بجنانك أي بقلبك، الفرق بين الأول والثاني أن الأول يفقه ما يقول، ماهيش كلمات يرددها ولا يفقه معناها. هذه كلمات عظيمة يا إخوان، كلمات عظيمة. ينبغي أن تعلم أنك إذا قلت سبحان الله معنى هذا أنك تنزه الله عن كل نقيصة أو عيب. الله تبارك وتعالى منزه عن هذا كله، لأنه لا يوصف إلا بأوصاف الجلال والجمال التي هي أوصاف الكمال لله عز وجل، ولا يكون هذا إلا إذا نزهناه عن النقائص كلها. ننزه الله أن يكون له ولد، ننزه الله أن يكون له زوجة، ننزه الله أن يكون غير بصير، وما إلى ذلك من هذه الأوصاف التي ضل فيها أمم. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. نسبة الولد إلى الله جل وعلا نقيصة، لأن الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ولهذا يحسن بأئمة المساجد، بأئمتنا، أن يجلسوا لإخوانهم وأن يعلموهم من هذه الأذكار، وأن يحفظوهم إياها، وأن يفقهوهم في معانيها، لأن هذا مهم جدا في هذا الكلام.
Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala dont nous parlons, il faut le faire avec les termes relatés dans les textes du Coran et de la Sunna et s'arrêter à cela. Il faut savoir, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, que le meilleur rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui fait par l'individu dont le cœur est en concordance avec ce que sa langue prononce, c'est-à-dire qu'il comprend le sens des paroles qu'il prononce, et celui qui agit ainsi est différent de la personne qui évoque Allah Azza wa Jal ignorant le sens des paroles qu'elle prononce. Il faut donc comprendre et apprendre le sens de ces immenses paroles telles que la parole Subhanallah. Il s'agit dans cette parole de déclarer Allah Subhanahu wa Ta'ala exempt, éloigné de toute défaillance ou imperfection. Ceci car Allah Subhanahu wa Ta'ala ne doit être décrit que par les qualificatifs tels que la beauté, la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs parfaits et complets. Il est exempt d'avoir une épouse, d'avoir un enfant. On ne doit pas le qualifier, comme certains l'ont fait et l'ont dit, comme étant non clairvoyant. Subhanahu wa ta'ala. Les sectes ou les groupes se sont égarés dans ce domaine. Les juifs ont dit « Uzair est le fils d'Allah ». Les chrétiens ont dit « Isa, Jésus, est le fils d'Allah ». Ils ont attribué l'enfant à Allah, Azza wa Jal, et ne l'ont pas déclaré exempt de ce manque, de ce défaut, car en réalité, le besoin d'avoir un enfant en soi est un manque dont Allah est exempt, car il est parfait, subhanahu wa ta'ala.
الذكر إذا ورد في النصوص بيان فضله دائما وأبدا يكون مقيدا بالإكثار منه، وهذا من مثل قول الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا كبيرا. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكثرة الذكر ليس معناها أنك تكثر من هذه الألفاظ بالقدر الذي ربما ما ذكره به نبينا عليه الصلاة والسلام. المقصود ما جاء في حديث عائشة: تكون ذاكرا لله كثيرا إذا كنت على كل أحوالك تذكر الله. الأذكار المسنونة تحافظ عليها، ذكر الله في الصباح، ذكر الله في المساء، ذكر الله عند النوم، ذكر الله عند الأكل، ذكر الله عند الشرب، ذكر الله عند اللباس، ذكر الله عند رؤية الهلال، ذكر الله عند نزول المطر. هذا معنى على كل أحيان، هذا من جهة. وقال الشيخ: في السر والإعلان والأحيان تذكر الله في نفسك، هذا معنى في السر. وجاء في الحديث: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، حديث القدسي. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، رب العزة والجلال. إن لم يكن من فضائل الذكر إلا هذا لكفى به فضلا، أن يذكرك الله. أيها العبد الضعيف، ربك يذكرك، إذا ذكرته ذكرك. سبحان ربي العظيم، تذكره في نفسك، يذكرك في نفسه. وإذا ذكرك ربك جل وعلا كلأك بحفظه وبرعايته، فأنت في حفظه دائما وأبدا إذا كنت دائما الذكر، إذا كنت دائما الذكر. ولهذا كان الصالحون يقولون، عبد الله ابن عوف رحمة الله عليه يقول: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. ذكر الله دواء، وأي دواء؟ دواء القلوب، لأن شفاء القلوب لا يكون إلا بذكر الله، إلا بذكر الله. ذكر الناس هذا داء، ذكر الناس يفتح عليك أبواب من الشر كثيرة إلا ما كان في حق. وغالب الناس إنما يتساقطون في هذا في الباطل، يغتابون إخوانهم، يطعنون فيهم، يتهمون نياتهم، يمشون بهذا الأمر. والشيطان قد يزين لهم سوء عملهم ويظنون أنهم يحسنون، ويظنون أنهم يحسنون. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وقد نهى نبينا عليه الصلاة والسلام من مثل هذه الأمور، وعده من كبائر الذنوب، الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. فإذا كان ذكر الله دواء، والدواء سبب الشفاء، وذكر الناس داء، والداء سبب البلاء، البلاء في الدنيا وفي الآخر، في الدنيا وفي الآخر. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أي ظالم ظلم بلسانه أو ظلم بيده أو ظلم حتى بقلبه من المعاصي سوء الظن بالغير وغش الغير وخديعة الغير، هذا بقلبك تفعل هذا مع إخوانك أنت من الظالمين، وربك جل وعلا يتوعدك بمثل هذا الوعيد الشديد. نحن يا إخوان أمرنا بالتراحم والتعاطف والتواد فيما بيننا، وهذا مصداقا لقول نبينا مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. على ما يعادي بعضنا بعضا وعلى ما نتقاطع ونتدابر. أمرنا بالنصيحة وما أمرنا بالقطيعة، ليس فينا بعد نبينا معصوم أبدا، والذي يعتقد هذا ضال مضل. ما فيش معصوم، كل الناس يخطئون، كل الناس، أشرف الناس يخطئون، الصحابة يخطئون رضي الله تعالى عنهم، ولكنهم ليسوا كسائر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير الخطائين التوابون.
Nous sommes toujours dans les vers où l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala nous parle de ceux qui évoquent Allah et multiplient son évocation et se rapprochent du grand détenteur de la royauté par la réalisation de son obéissance et le délaissement de sa désobéissance. C'est donc un deuxième arrêt que l'on fait pour attirer l'attention sur un point important qui est que quand Allah tabaraka wa ta'ala nous cite l'évocation dans les textes, on voit tout le temps, ou très souvent, que celle-ci est accompagnée de l'abondance. Lorsqu'Allah nous ordonne de l'évoquer, il nous ordonne de le faire avec abondance. À titre d'exemple, dans le sens rapproché d'un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: les hommes et femmes qui évoquent Allah abondamment, Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. Subhanahu wa ta'ala. Il s'agit donc d'évoquer Allah à chaque moment et instant et ne pas se contenter d'un nombre précis, mais plutôt de l'invoquer dans les différentes situations que l'un d'entre nous traverse, telles que le matin, le soir, au coucher, au lever, lors de la prise du repas, avant de boire, lorsque l'on voit le croissant lunaire qui marque le début du nouveau mois lunaire, lors de la tombée de la pluie, de manière globale, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant et moment. Il suffit comme mérite à l'évocation d'Allah de savoir qu'Allah lui-même subhanahu wa ta'ala nous dit dans le récit à thème divin que nous rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant de son serviteur. Il nous dit, selon le sens rapproché bien sûr: et si mon serviteur m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. S'il m'évoque auprès d'une assemblée, je l'évoque auprès d'une assemblée bien meilleure. Ceci est amplement suffisant au serviteur pour qu'il évoque Allah et redouble d'efforts dans ce domaine. Le fait de savoir que toi, le faible serviteur d'Allah, le besogneux, le pauvre, Allah tabaraka wa ta'ala t'évoque si tu l'évoques. Il te mentionne, si tu le mentionnes, subhanahu wa ta'ala, est largement suffisant pour redoubler d'efforts dans l'évocation d'Allah. Et comme il fut dit, c'est d'ailleurs Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, qui le dit, noble compagnon, Abdullah ibn Auf, rahimahullah, un des plus prédécesseurs, qui dit: l'évocation d'Allah est un remède. Mentionner Allah est un remède. Mentionner les gens est une maladie. Et lorsqu'il parle du remède, il entend par cela le remède pour le cœur. Le fait d'évoquer le nom d'Allah, de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, est un remède pour le cœur malade, est une guérison de la part d'Allah. Alors que le fait de mentionner les gens ouvre la porte à de grands maux, sauf si ceci est fait en toute justice et dans la vérité. Mais nous constatons que la majeure partie des gens voient leur temps passé à évoquer les gens. Le diable a enjolivé leurs actions. Ils pensent faire le bien. En réalité, ils ne font que le mal. Ils évoquent les gens. Ils médisent. Ils tombent dans la médisance ou le colportage et autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit. Il nous a interdit la médisance sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens rapproché du verset, a dit: et ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que les injustes font. Il ne fait que leur laisser un délai jusqu'à un jour où les regards seront bouleversés. Dans ce verset, Allah azza wa jal parle des injustes. Les injustes dans leurs actions, les injustes dans leurs paroles, les injustes même dans ce qu'ils ont dans leur cœur comme mauvaise pensée envers le prochain et autres. Si ton cœur est habité par les mauvaises pensées au sujet d'une personne et toutes ces choses qui viennent d'être citées, tu fais partie des injustes. Et on a reçu l'ordre de lier les liens, de lier les cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait l'image des croyants en nous disant: l'image des croyants dans leur amour, dans leur lien affectif, et la miséricorde qui les unit est semblable à un seul et même corps. Quand un organe se plaint, c'est tout le corps qui souffre de l'insomnie et de la fièvre. Pourquoi est-ce que l'on rompt les liens qu'il y a entre nous? Pourquoi est-ce que l'un d'entre nous tourne le dos à l'autre? Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de prodiguer le conseil. Nous devons savoir qu'il n'y a personne parmi nous d'infaillible. Celui qui a une telle croyance est un égaré. Nous sommes tous des fauteurs. Mais comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des fauteurs est celui qui se repent. Même les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, radiyallahu ta'ala anhum, commettaient des fautes, bien qu'ils sont largement différents par rapport aux autres parmi les gens. Mais ils n'hésitaient pas à se corriger, radiyallahu anhum. Ainsi, le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, permet au serviteur de se préserver. Et c'est une guérison pour son cœur.
أن الذكر هو الحصن الحصين الذي يمنعنا بإذن ربنا من شر الشيطان الرجيم. إذا أردت أن تكون في حصانة وفي حماية من الشيطان فعليك بملازمة الذكر. فقد جاء هذا واضحا جليا في كلام الله تبارك وتعالى من مثل قوله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجاء كذلك بيانه في حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بحديث يحيى عليه السلام وأن الله أمره بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن على أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إلى أن قال من هذه الكلمات الخمس: وأن تذكروا الله فإن مثل الذاكر لله تبارك وتعالى أو من يذكر الله تبارك وتعالى كمثل رجل أخذ عدوه في أثره صراعا فدخل حصنا حصينا هذا الحصن الحصين هو ذكر الله تبارك وتعالى. الشياطين محيطة بنا، الشياطين تتربص بنا، تتربص بأبنائنا لتفسد علينا ديننا، ولها أثرها، وأثرها واضح جلي لا ينكره إلا مكابر. ربك عز وجل برحمته ومنه وكرمه عليك جعل لك وأعطاك هذه الحماية أن تحتمي من شره بذكر مولاك تبارك وتعالى. إلزم الذكر فإنه لا يضرك ولا يصيبك شره. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي حين يصبح لا يمسه شيطان حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي لا يضره شيطان حتى يصبح. حماية وقاية ربانية آية الكرسي، ذكر لله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فيها هذه الحماية. ولهذا كان الذاكرون لله تبارك وتعالى في سرهم وفي إعلانهم وفي كل أحيانهم في حفظ ربهم تبارك وتعالى. ثم قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم. والسير إلى الله لا شك ولا ريب أن فيه القرب منه، أنت تسير لتحقيق هذا القرب، والقرب وصول. ولهذا جاء في الحديث: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف، أي خاف ربه تبارك وتعالى، وهذا مثل في عموم الخوف، أدلج، والدلوج هو سير الليل، وسير الليل أفضل من سير النهار، لأن في الليل تطوى المسافات، فيه بركة، وهذا سير مع الله، سير القلوب مع الله تبارك وتعالى. هذه القلوب إذا خافت من ربها حقيقة الخوف فإنها تمضي في سيرها، وإذا كانت صادقة في سيرها متبعة هدي نبيها فإنها ستصل بإذن الله. والوصول هو القرب، ومن كان، وكلما كان العبد قريبا من الله كلما كان وكانت حماية الله له أعظم، وكانت منزلته عنده أعلى وأرفع، أقرب الناس إليه هم أتقاهم له، ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله من بلغ درجة الخلة، ودرجة الخلة هي أعلى الدرجات، فوق درجة المحبة، فوق درجة المحبة. وقلنا أن من صفات الأولياء هم الذين ملأ الإله قلوبهم بولاده ومحبة الرحمن، هذه فوق المحبة، ولهذا ما أعطاها الله جل وعلا إلا لاثنين من خلقه هم سادات الخلق أجمعين، خليل الرحمن الأول إبراهيم، وخليله الثاني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
L'imam Sa'di, rahimahullahu ta'ala, continue, et ceci est un arrêt que l'on fait toujours dans le domaine de l'évocation d'Allah. Le Cheikh nous dit, hafidhahullah, l'évocation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le rempart, ou la citadelle, ou encore la forteresse. La forteresse qui nous permet de se protéger du diable, le diable maudit ou lapidé. On le voit. On voit ce qualificatif dans le Coran et on le voit également dans un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après le Harith al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an, qui nous raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cinq paroles qu'Allah azza wa jal a révélées à Yahya, le prophète, le fils de Zakariya alayhi salam jami'an. Dans ces cinq paroles, Yahya devait les mettre en pratique et ordonner aux enfants d'Israël d'en faire de même. La cinquième de ces paroles est l'ordre d'évoquer Allah. Yahya ibn Zakariya a dit aux enfants d'Israël, « Et je vous ordonne d'évoquer Allah. » Car l'image de celui qui évoque Allah est semblable à un homme ayant l'ennemi à ses trousses. C'est alors que cet homme trouve une forteresse dans laquelle il s'abrite. Et c'est ainsi que le serviteur ne peut se protéger du diable que par le rappel d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Les démons, les diables, sont aux aguets. Ils cherchent à éloigner les serviteurs d'Allah. D'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils cherchent à leur pervertir leur foi et leur religion. Et ceci est clair et apparent. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit cette protection à ses serviteurs, qui n'est autre que le fait d'évoquer son nom. Et plus le serviteur évoque le nom d'Allah, plus il sera protégé et sous la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Évoque Allah abondamment, le diable ne te nuira en rien. Dans un récit prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui récite le verset appelé Ayatul Kursi, le verset 255 du surat al-Baqarah, au matin, sera protégé du diable jusqu'au soir, et celui qui le récite le soir en sera protégé jusqu'au matin. C'est la raison pour laquelle ceux qui évoquent Allah abondamment, subhanahu wa ta'ala, sont préservés par Allah. Allah tabaraka wa ta'ala les met sous sa protection. Le Cheikh Sa'di nous dit, il se rapproche du grand détenteur de la royauté par la réalisation de son obéissance et le délaissement de sa désobéissance. Il se rapproche, il cherche à arriver, il cherche à gagner cette proximité avec Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'arriver à leur but, qui est la satisfaction d'Allah. Dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Celui qui craint, celui qui est habité par la peur, va voyager de nuit. » Et celui qui voyage de nuit va arriver. Vous savez que le voyage de nuit est plus simple que le voyage pendant la journée. On a l'impression que le voyage est plus court, est moins difficile, moins contraignant. Ici, on nous parle du cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est une parabole, une image qui est faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a pour but de nous enseigner que celui qui veut et qui désire, qui éprouve un désir ardent d'arriver à Allah, tabaraka wa ta'ala, va fournir les efforts, comme cet individu qui voyage de nuit et qui veut arriver à destination. Il va fournir les efforts et va arriver vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Les cœurs qui marchent sur cette voie arriveront à Allah et seront proches de lui. Et plus l'individu, le serviteur, est proche d'Allah par son obéissance, par son rappel, par le suivi des ordres d'Allah, azza wa jal, plus il sera sous la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ceux qui sont les plus proches d'Allah sont ceux qui ont atteint, par la permission d'Allah, ce degré de proximité appelé en arabe al-khulla, qui est une amitié très forte. C'est dans le sens global le fait d'être très proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est un degré atteint seulement par deux des serviteurs d'Allah, qui ne sont autres que les deux meilleurs prophètes. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Ibrahim, alayhi wa sallam, qui invoquait Allah abondamment, lui obéissait et s'éloignait des péchés et de la désobéissance. Ils se sont donc trouvés sous la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
إذن قال يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فعل الطاعات وترك المنكرات المعاصي هذا الذي يتقربون به إلى ربهم، وهذه حقيقة التقوى، وهذه حقيقة التقوى، تقوى الله الذي هو وصيته للأولين والآخرين، كما قال رب العالمين جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هي كذلك صفة أوليائه، وهي مرتبة الولاية لله عز وجل. الأولياء الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يجدهم الله تبارك وتعالى في محابه ويفتقدهم عند مساخطه، هؤلاء هم الأولياء، يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. قال بعد ذلك: فعل الفرائض والنوافل دأبه. هذه الطاعات، هذه الطاعات في هذين الأمرين: إما فعل الواجبات أو فعل المستحبات. الواجبات التي هي الفرائض، والفرائض ما أمر الله عز وجل به أمرا جازما لازم فعله. الفريضة تاركها يكون آثما عاصيا لله، عاصيا لله. يقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يدل أن الفعل فريضة والفريضة لازمة الفعل، فمن تركها كان آثما، كان آثما. ولهذا كان بعض السلف يقولون في بعض الفرائض، يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ركن من أركان الإسلام وفريضة من أعظم فرائضه: من ملك الراحلة والزاد ثم لم يحج فليمت إذا شاء نصرانيا أو يهوديا. الذي أعطاه الله جل وعلا، العطاء عطاؤه والرزق رزقه، أعطاه راحلة يسافر بها ورزقه الزاد الذي يتزود به في سفره وله القوة البدنية، ثم لم يحج. هذا قال أمير المؤمنين فليمت إذا شاء نصرانيا أو يهوديا لأنه على غير ملة الإسلام. فعل الفرائض والنوافل هي عموم الطاعات، وهذا مأخوذ. أما النوافل فهي ما أمر بها أو أمرنا بها، سواء كان الآمر الله جل وعلا أو نبيه، على غير سبيل الجزم. وفعله لا يكون لازما، وبالتالي من تركه لا يكون آثما. من فعله يثاب على الفعل، ومن تركه لا يعاقب على الترك. يعني زيادة في الخير. ولهذا جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يبلغ درجة الولاية. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا كانت الفرائض هي محاب الله، الشيء الذي يحبه الله. هذا إذا فعلت، هذا إذا فعلته يرفع عنك العقاب، لا تلام. الأعرابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله: ما فرض الله علي في الصلاة؟ فأخبره النبي. ما فرض الله علي في الزكاة؟ فأخبره النبي. في الصيام؟ فأخبره النبي. الأعرابي قال بعد ذلك: والله لا أزيد عليها ولا أنقص، لا أزيد على هذه، لا أزيد على هذه ولا أنقص. يجيب الفرائض ثم ذهب. قال النبي: أفلح إن صدق. في رواية: دخل الجنة إن صدق. هذه فرائض فحسب. وإذا ازددت اجتهادا وقربة من الله تبارك وتعالى بفعل النوافل، زادت درجتك ومرتبتك عند الله. ولهذا قال رحمه الله: فعل الفرائض والنوافل دأبهم. دأبهم بمعنى هذا حالهم الذي يديمون عليه، يعني هم دائما في هذا الأمر، فعل الفرائض والنوافل. ومع هذا كله قال: مع رؤية التقصير والنقصان يفعلون هذا، ولا يغترون بأفعالهم، ولا يعظمون أنفسهم لأجل ذلك. أنا بعض الناس إذا حافظ على الفرائض يظن أنه يدير مزية لله عز وجل، ده مزية. ما ديك الحكاية تاع قال له تروازو في ماتاوس ما يقبلش. هذا واحد من جماعة الصبحين بدا الصلاة حديدة، وبعد قال لك ما يعرفش مسكين. صلى الصبح هذاك الوقت على الصورات تاعكم شوية بكري، الثالثة والنصف مثلا، صلى كمل الصلاة. أول مرة يصلي في المسجد، الناس اللي يجيب الله يتقبل، الله يتقبل. ما
يفهم العربي. قال صاحبه هذاك اللي علمه ذاك قالوا وش عم يقولوا لي هذا؟ قالوا دول عم يقولوا لك كالله عز وجل أكسبت أبخيه. قالوا طرزوا دي ماتا ويزيد تاني أكسبت. بعض الناس هذا حاله يعني إذا زاد وراح للحج حاجة كبيرة، ولكن الصالحون كانوا كما قال ربنا جل وعلا في وصفهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ لأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة. خائفة ممن؟ خائفة من الله، لأنهم إليه راجعون. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا يا بنت الصديق، إنما الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. وهذا معنى قوله مع رؤية التقصير والنقصان، وهذا الواجب على كل مؤمن يا إخوان. دائما مهما تقدم قل عندي مقصر وأنا مقصر، لعندي في عمل نقصان. تعلمون ما الحكمة؟ أننا بعد الصلاة علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول دائما أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، نستغفر ثلاث. هذا لأجل الجبر شيء من النقصان. تعلمون ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صدقة الفطر؟ صدقة الفطر اللي تكون بعد
رمضان.
بعد صلاة العيد.
رمضان.
قبل صلاة. قبل. أنت ما تخرجها بعد. أولا تزوج جدا. ترى قراب. قبل صلاة العيد. قبل صلاة العيد. صدقة الفطر. وش قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيها طعمة للمساكين. طعمة للمساكين. ايه وبعدها؟ ها؟ ليش نوم من الغرب؟ ها؟ وطهرة للصائم. أحسن. وين راح هذا البيت؟
الحاج.
الحاج. الله يحفظك احسبني هديه باذن الله. وطهره للصائم من اللغو والرفث، يعني الله عز وجل يطهر صيام تصمت لله وفي النهايه تزيد تتصدق لعله في الصيام تاعك وقعت في شيء من تقصير، وقعت في لغو، وقعت في رفث، صلى الله عز وجل عفو العافيه.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا
الله الإمام السعدي رحمه الله تعالى poursuit et dit: il se rapproche du grand détenteur de la royauté par la réalisation de son obéissance et le délaissement de sa désobéissance. La pratique des obligations et des actes surérogatoires demeure leur habitude, tout en considérant le manquement et la diminution, c'est-à-dire dans leurs œuvres. Mettre en pratique les ordres et délaisser les interdits n'est autre que la réalité de la piété, celle qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a enjoint. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous nous avons enjoint aux gens du livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah, ou bien de se prémunir du châtiment d'Allah en lui obéissant. C'est ce qu'on appelle at-taqwa. Et le fait de mettre en pratique les obligations et délaisser les interdits est le degré de l'alliance avec Allah. Les vrais alliés d'Allah sont ceux qui obéissent aux ordres et délaissent les interdits. Au sujet des alliés, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens rapproché du verset: n'est-ce pas que les alliés d'Allah n'ont rien à craindre ni à être attristés, ceux qui ont eu foi et qui ont fait preuve de piété. Ils ont mis en pratique les obligations et aussi les actes recommandés, ce qu'Allah nous a encouragé de faire. La différence entre les deux, c'est que lorsque nous parlons d'obligations, il s'agit de ce qu'Allah a prescrit, c'est-à-dire qu'il l'a légiféré à son serviteur de manière obligatoire, sans lui laisser le choix dans la façon d'agir. Il doit s'exécuter, et s'il s'exécute, il se verra récompensé, alors que si il ne s'exécute pas, il se voit sous la menace et est pécheur. Par exemple, au sujet de la prière, Allah Azza wa Jal a dit, dans le sens rapproché du verset: et accomplissez la prière. C'est un ordre qui nous est donné par Allah, et à la base, les ordres impliquent l'obligation. Donc ici, Allah nous enseigne l'obligation de prier. Celui qui prie sera récompensé. Celui qui la délaisse sera dans le péché. Au sujet des obligations, les compagnons étaient stricts. D'ailleurs, Umar ibn Khattab radiallahu anhu a dit, concernant le pèlerinage et son obligation: celui qui a en sa possession des provisions et une monture suffisante pour accomplir le pèlerinage, mais ne l'accomplit pas, alors qu'il meurt, juif ou chrétien, s'il le veut. Ici, c'est une menace qui est faite à celui qui délaisse cette obligation, qui est celle du pèlerinage. Quant aux actes appelés surérogatoires, ce sont les actes qu'Allah nous a encouragés de faire. Il les a légiférés à ses serviteurs de façon recommandée. Celui parmi les serviteurs qui les met en pratique se verra récompensé, et celui qui les délaisse n'est pas dans le péché. Dans le récit à terme divin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'Allah, exalté soit-il, a dit: et mon serviteur ne se rapproche pas de moi avec meilleur que ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire les obligations. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires ou recommandés jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens sa vue par laquelle il voit, son ouïe par laquelle il entend, sa main avec laquelle il attrape et son pied avec lequel il marche. Les obligations sont les choses aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un bédouin s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a interrogé au sujet du degré obligatoire dans la prière, le nombre de prières obligatoires, de jeûnes obligatoires et d'aumônes obligatoires. Après avoir entendu la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant les cinq prières, le jeûne de Ramadan, cet homme s'en est allé et a dit, par Allah, je n'ajouterai rien ni ne diminuerai à cela. C'est-à-dire à ce que lui a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Il va se contenter de l'obligation. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a entendu ses propos, a dit, s'il est véridique, il réussira. S'il est véridique, il réussira. Puis si le serviteur ajoute à cela, ajoute aux actes obligatoires, les actes surérogatoires, il s'élève en degré chez Allah. Il s'élève chez Allah et se rapproche davantage de lui, subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sa'di, rahimahullah, nous dit que ces gens-là ont pour habitude d'adorer Allah en mettant en pratique les obligations et les actes surérogatoires. C'est donc leur habitude, mais sans pour autant être trompés par leur personne. Ils ne sont pas impus de leur personne, car ils savent qu'en réalité, ils sont sujets à la défaillance, à l'imperfection. Ils ont des manques, ils ont des choses à corriger. Ils ne se trompent pas et ne se font pas tromper par leurs actions. Ici, le cheikh nous raconte l'histoire d'une personne qui était nouvelle dans la religion d'Allah.
C'est l'essentiel.
Il y a une personne qui s'est repentie à Allah Azza wa Jal. Cette personne s'est rendue à la mosquée pour accomplir la prière du matin. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans ce pays...
Et il est de chez vous.
Il est de chez vous. Et vous n'êtes pas sans savoir que la prière du Fajr, particulièrement en hiver, en été, s'accomplit très tôt dans la matinée. Cet individu s'est rendu à la mosquée, il a accompli la prière du Fajr. Puis il a vu les gens se saluer les uns les autres et se souhaiter l'acceptation des actes. Mais il ne comprenait pas les paroles qui étaient prononcées par ces gens. Il a interrogé son voisin et lui a dit « Qu'est-ce que ces gens disent ?» Le voisin lui dit « Ils t'ont dit qu'Allah t'accepte. » Et cet homme a dit, « Je viens à 3 heures du matin et il se peut qu'il ne m'accepte pas en plus. » Les pieux sont ceux qui craignent la non-acceptation de leurs actions. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran, « Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, c'est-à-dire ils fournissent les efforts ou font des actions pour se rapprocher d'Allah, les cœurs pleins de crainte à l'idée de savoir qu'ils reviendront à leur Seigneur. » Aïcha radiallahu anha, la fille, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a interrogée et lui a dit, « Ô messager d'Allah, s'agit-il ici de ceux qui forniquent, qui consomment les boissons enivrantes et, ou qui volent ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Non, ô toi, la fille du grand véridique, mais il s'agit de gens qui prient, qui jeûnent, et qui s'acquittent de l'aumône, mais ils craignent que leurs actions ne soient pas acceptées d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Le musulman a l'obligation de ne pas être trompé par sa personne ou ses actions. Il doit regarder le manquement dont il fait preuve, car il est fauteur et a la défaillance. C'est la raison pour laquelle la demande de pardon d'Allah, Azza wa Jal, a été légiférée dans de nombreuses situations, parmi lesquelles à la fin de la prière. Car sans aucun doute, le serviteur qui prie va avoir des manquements et on lui demandera de combler ou du moins d'essayer de combler ces manquements à travers la demande de pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala. De même, après le jeûne du mois de Ramadan, il est légiféré aux musulmans de s'acquitter de l'aumône, sadaqatul fitr. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'elle a pour but d'être une nourriture offerte aux besogneux, mais aussi une purification pour le jeûneur, c'est-à-dire de combler le manque dont il a fait preuve pendant son jeûne. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Adam, Masha'Allah.